À tous, que Dieu soit béni pour ce jour merveilleux. Il est véritablement miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Nous rendons grâce justement au Seigneur pour ce privilège, cette responsabilité. Et nous lui demandons son secours. Et je dis aussi merci à notre pasteur, pasteur Bondo, ainsi que maman Gisèle, pour la confiance nous témoigner. Nous nous inclinons, nous prions pendant un petit moment. Père Céleste, nous te disons merci pour ce temps merveilleux dans ta présence. Un jour, une heure dans tes parvis, dans ta présence, dans ton Saint-Temple, une heure vaut mieux que mille ailleurs, car une heure dans ta présence peut changer une destinée, peut transformer une famille, peut relever, peut orienter, peut sauver. Merci parce que tu le fais par le moyen de ta parole. Bénis ton serviteur, fortifie-le, et que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de Christ. Au nom puissant de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Amen. Sans tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais commencer la première lecture dans la première épître de Pierre, ou plutôt la deuxième épître de Pierre, au premier chapitre, verset 3. Et ensuite, nous lirons dans 2 Corinthiens et nous lirons dans 1 Roi. À ce stade, je vais lire 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Amen. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, pour fuir la corruption et être participant à la nature divine. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. La bénédiction apostolique qui révèle les trois personnes en Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et le dernier texte à ce stade, 1 Roi, chapitre 19. Raison de économie de temps, je vais lire simplement à partir du verset 4. Il s'agit du prophète Élie. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, où il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit: lève-toi et mange. Élie regarda et vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit: Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Extraordinaire, n'est-ce pas? Amen. Une nourriture qui permet de résister 40 jours et 40 nuits, qui permet de gravir une montagne, c'est extraordinaire. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. J'aimerais parler d'un thème que j'ai intitulé comme suit: les ressources divines pour une vie chrétienne victorieuse. Les ressources divines pour une vie chrétienne victorieuse. Notre Dieu est un Dieu responsable. Et quand il a créé l'homme, il a mis à la disposition de l'homme toutes sortes de ressources pour sa vie physique, biologique. Il l'a placé dans un jardin d'Éden. Le livre de la Genèse nous en décrit la beauté, nous en décrit tout ce que Dieu a fait pour mettre l'homme dans des conditions idéales. Idéal. Et quand bien même l'homme avait péché et a été chassé du jardin d'Éden, Dieu ne l'avait pas totalement abandonné. La terre, quoique avec beaucoup plus de difficultés maintenant, a continué à produire, et nous le voyons jusqu'à aujourd'hui. La terre produit pour alimenter l'homme, les animaux, les bêtes, mais aussi le sous-sol produit pour diverses choses que l'homme doit faire, pour diverses besoins, construire, pour se mettre à l'abri. Nous avons besoin des ressources du sol, nous avons besoin des ressources du sous-sol, nous avons besoin du bois, pour les arbres, pour construire, pour les chaises, pour les meubles. Donc nous avons besoin de toutes ces ressources et Dieu les a mis à la disposition de tout homme. Amen. De tout homme, toute race, tout peuple. Peu importe l'obédience religieuse, Dieu a donné toutes ces ressources. Mais il l'a aussi pourvu pour une vie chrétienne victorieuse. Il a donné des ressources. Nous allons détailler. L'exemple que j'ai pris dans 1 Roi, chapitre 19, dans la vie d'Élie, ce n'est qu'une illustration. Cet épisode de sa vie, je l'ai pris comme illustration. La Bible dit qu'il a marché dans un désert pendant longtemps et fatigué. Il a même demandé la mort. N'est-ce pas que notre vie ici sur la terre ressemble à ce désert, à un désert fatigant? Au début, lorsqu'il y a la force, nous sommes contents. Nous avançons quand même au début. Mais quand les forces s'épuisent et que la chaleur du désert nous frappe, soit dit en passant, les épreuves et toutes sortes de réalités, lorsqu'elles nous saisissent, nous sommes fatigués. Et heureusement que comme Élie, Dieu n'écoute pas toutes les prières. Amen. Dieu n'écoute pas toutes les prières. Élie a demandé la mort. Il était fatigué. Je sais qu'il y a comme ça des gens parfois, au bout du rouleau, ils demandent au Seigneur, prends-moi comme Élie. Seigneur, je ne sais pas quelles circonstances vous traversez, parfois dans la maladie. On a prié plusieurs fois avec des malades à cause de la douleur de la maladie. On arrive parfois à demander la mort à cause d'un échec ou d'une épreuve qu'on estime grandiose. On arrive à demander la mort. Ça, c'est humain. C'est humain. Mais Dieu nous comprend. Et comme Élie, il n'a pas écouté cette prière. Amen. Dieu n'écoutera pas toujours toutes nos prières. Il y a des prières qu'on peut dire comme ça, selon ça, qui ne sont pas selon sa volonté. Dieu ne les écoutera pas. Amen. Au contraire, il a pourvu. Il dit non, Élie est fatigué. Il a besoin d'un repas. Il a besoin d'un pain, de quelque chose. Et là, nous voyons extraordinaire. Et ce que j'aime avec le Seigneur, moi, je crois profondément à la parole que nous prêchons. Ce que Dieu a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Et il est capable de le faire pour l'avenir. Alléluia. Je crois ces paroles. Quand le Seigneur prépare un gâteau, il envoie un ange dans le désert et puis une cruche. Je crois en la provision divine. Je crois que Dieu est capable de faire cela. Et j'aimerais inviter quelqu'un, quelle que soit ta situation, ne désespère pas. Dieu est capable de surgir de n'importe quelle manière. Alléluia. Dans le désert, il n'y avait personne, mais il y avait Dieu dans les cieux. Alléluia. Et il a pourvu pour Élie. Dieu n'écoute pas toujours toutes les prières, comme je le disais, mais au moins, Dieu nous amène à la destination qu'il a prévue. Il sait ce qu'il faut pour nous amener à la destination. Il savait que Élie devait arriver à Horeb. Et là, à Horeb, Dieu devait se manifester à lui et lui confier une mission par rapport à Élisée, par rapport au roi Hazaël qu'il devait oindre et par rapport encore à un autre roi. Donc la mission d'Élie n'était pas finie. Bien-aimé, Dieu sait et il a la provision nécessaire pour nous amener à notre destination. Alléluia. Le ciel n'est pas en panne de provision. Le ciel n'a jamais été vide. Parfois, les gens qui posaient les questions, est-ce que quand Jésus était venu sur la terre, est-ce que le ciel était vide? Non, le ciel n'était jamais vide et ne sera jamais vide. Dieu remplit les cieux et la terre. Amen. Hein? Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Telle cette provision divine, le Seigneur a prévu pour nous des ressources pour nous amener jusqu'à la destination finale, aux destinées temporelles pour chacun, mais jusqu'à la destination finale, le Seigneur a la capacité de nous amener. Et j'aime beaucoup ce texte d'Ésaïe 46, bon, je n'ai pas pris, mais je le connais de mémoire, Ésaïe 46 au verset 3, qui dit, vous que j'ai pris à ma charge, que j'ai pris pendant votre jeunesse, je veux encore vous porter jusqu'à votre blanche vieillesse. Je vais vous porter. Le Seigneur est capable de nous porter. Amen, n'est-ce pas, Papa Kaloubi? Vous voyez, il y a plus de 80 ans. Mais le Seigneur a porté depuis un moment. Il porte encore, il porte encore, il porte encore. Alléluia, parce qu'il a les provisions divines pour nous porter. Et j'aimerais partager sur ces provisions divines que je note dans les passages que j'ai lus. Je note au moins 5 provisions. On va faire un effort de les toucher toutes. Je commence par la bénédiction apostolique que nous avons lu dans 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Une prière que l'apôtre Paul adressée en faveur des Corinthiens, mais bien sûr une prière que nous répétons souvent à la fin des cultes, mais ce n'est pas simplement un vœu. Il y a une richesse dans ce contenu. Et la première provision divine, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce. Parce que tout commence par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'histoire avec Dieu, le chemin, le parcours avec Dieu, la marche avec Dieu commence par la grâce manifestée en Jésus-Christ. Sans la grâce de Jésus, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de vie. C'est sa grâce qui est venue nous chercher, nous localiser, c'est sa grâce qui nous a tirés du péché. Nous avons cru en son sacrifice à la croix et sa grâce a effacé nos péchés, a effacé notre condamnation et nous avons été sauvés, rachetés. Cette même grâce nous a positionnés, comme dit l'Épître aux Éphésiens, nous sommes assis avec Christ à la droite du Père, dans les lieux élevés. C'est là notre position et c'est une richesse de le savoir, de le vivre, de l'expérimenter, d'être conscient que nous avons des ressources. Nous ne sommes pas perdus, nous ne sommes pas appelés à vivre une vie chrétienne au rabais. Malheureusement, c'est ce qui se passe pour beaucoup. Menons une vie chrétienne au rabais, comme des chenilles, alors que le Seigneur nous appelle à voler comme des papillons. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Notre position est élevée en Christ. J'aime beaucoup ce passage, j'aimerais qu'on le lise dans Nombre chapitre 24, au verset 8 à 9. Nombre 24, 8 à 9. Là, c'est Balaam qui parle. Balaam, c'est ce devin que le roi Balak avait appelé pour maudire Israël, parce qu'il avait peur. Il avait peur qu'Israël, en sortant d'Égypte, connaissant la promesse, et les victoires qu'Israël commençait à manifester, il avait peur qu'Israël puisse lui ravir son territoire. Et il dit, maudit ce peuple. Il connaissait la puissance de sorcellerie de Balaam. Mais Balaam, Dieu lui a interdit. Et il a voulu, il répondait aux invitations et Dieu changeait le message. Il disait, non, tu ne peux pas maudire. Et là, ce dialogue-là, et puis pendant qu'il répondait à Balak, voilà comment il décrit le peuple d'Israël. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il possède la force du buffle, il dévore les nations qu'il attaque, il brise les os et les abat de ses flèches. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera s'élever? Béni soit celui qui te bénira et maudit soit celui qui te maudira. Et j'aimerais nous dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous approprier de cette promesse. Alléluia! Nous pouvons nous approprier de cette promesse. L'ennemi nous voit comme un lion couché. Vous pensez que avec ces plus de 2 millions le peuple d'Israël dans le désert, il n'y avait personne qui était malade. Il n'y avait personne qui avait des problèmes. Il n'y avait pas des gens qui pleuraient parce qu'ils avaient rompu les fiançailles. Il n'y avait pas des gens qui étaient endeuillés. Oui, il y en avait. Et il y en avait, c'est toute une vie de millions de personnes. C'est toute une vie. plusieurs vies plutôt, plusieurs réalités. Il y avait des gens qui étaient dans le besoin. Il y avait des gens qui avaient des situations et qui attendaient Moïse depuis des jours. Peut-être pour régler une situation. Il y avait des gens qui avaient des situations particulières. Il y avait des gens qui soupiraient après des enfants. Mais Balaam, lui, quand il voit, il perçoit avec la vision divine, il dit, je les vois comme un lion. Bien-aimé, j'aimerais dire quelque chose que je dis souvent dans les entretiens. Donc, ta situation n'est pas écrite sur ton visage. Parfois, nous avons l'impression d'être abattus. Ce n'est pas écrit. L'ennemi, lui, voit comme un lion. Le monde voit comme un lion. Les puissances des ténèbres voient comme un lion. Alors, ne leur donnez pas l'occasion de vous écraser. Alléluia. Même quand ils veulent vous faire peur. Comme un lion. C'est comme ça que le Seigneur vous voit. Il ne vous voit pas malheureux chômeur depuis 18 ans en train de pleurer. Non, ma position est en Christ. Puisque ma position est élevée au-dessus de tout, ma position va dominer sur ma situation et va influencer ma situation. La grâce que nous avons en Jésus est une ressource. Nous devons nous appuyer sur cette grâce. Nous devons nous appuyer. Et bien sûr, en Christ, la grâce n'est pas un passe-partout pour vivre n'importe quelle vie. Tite, chapitre 2, partie du verset 11, nous rappelle que la grâce a ses exigences. La grâce nous enseigne à renoncer. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Et elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Amen. Ça, c'est l'œuvre de la grâce dans une vie. La grâce, ce n'est pas la licence. C'est-à-dire nous abandonner à nous-mêmes et faisant ce que nous voulons. Non, la grâce nous enseigne comment nous devons vivre, comment nous devons marcher pour bénéficier pleinement de cette grâce. Amen. Et une dernière pensée que j'aimerais partager sur la grâce, que j'aime beaucoup. 1 Jean chapitre 2, verset 1, je n'ai pas peut-être transmis ce verset, mais il est bien connu. La Bible dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ est notre intercesseur auprès du Père. Voilà la mission qu'il a, un défenseur. Voilà la mission qu'il a présentement auprès du Père. Il est monté au ciel, non pas pour se reposer. Il prie pour nous. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans les lieux très saints et il prie pour toi. Il prie pour toi. Alléluia. Il prie pour toi. Bon, j'aimerais nous poser une question simple. Est-ce que l'intercession de Jésus à son Père peut échouer? Ça ne peut que réussir, n'est-ce pas? Alors, c'est à nous d'entrer dans cette intercession-là. C'est à nous d'entrer dans cette intercession. Nous verrons. C'est à nous d'entrer dans l'intercession de Christ afin d'expérimenter ce qu'il est, les victoires qu'il a déjà acquises, qu'il aimerait que cela nous parvienne aussi. Il intercède pour nous. La grâce. Notre première ressource. Deuxième ressource, l'amour du Père. L'amour du Père, qui est aussi le point de départ de notre présence ici sur la terre. Il n'y a rien à expliquer. Si nous sommes ici sur la terre, c'est parce que Dieu nous aime. N'est-ce pas? Adam devrait être, lorsqu'on le verra, il va simplement nous dire que le Seigneur aurait pu l'anéantir, refaire un autre et le garder dans les jardins d'Éden et travailler avec des hommes parfaits. Mais il a manifesté son amour en le laissant, en pourvoyant au moyen de la rédemption. Le Seigneur nous aime. Nous pouvons tout perdre, tout oublier. N'oublions pas que le Seigneur nous aime. Son amour est une provision qui nous alimente. Lorsqu'on a reçu l'amour de Dieu, on l'a compris, notre vie ne sera jamais la même. Oh, parfois, c'est triste de voir combien des hommes sont durs envers leurs épouses, des femmes extrêmement dures envers leurs maris, au point même de refuser de pardonner. Dans la Bible nous dit simplement que nous devons pardonner, car Dieu aussi nous a pardonné, comme nous avons été pardonnés. L'amour de Dieu, une ressource inépuisable, incommensurable, que l'on ne peut mesurer. L'apôtre Paul s'essaye et utilise toutes les termes qui nous parlent des mesures pour parler de l'amour de Dieu. Il dit dans Éphésiens chapitre 3, 18, nous allons lire cela. Il demande aux Éphésiens, il dit qu'il prie pour eux afin que les Éphésiens, avec tous les saints, nous y compris, nous avons besoin de connaître, de comprendre la largeur de l'amour de Dieu, la longueur, la profondeur et la hauteur. Largeur, longueur, profondeur, hauteur. Là, je prends justement des commentaires qui s'accordent pour dire que quand on parle de largeur de l'amour de Dieu, on voit le Dieu qui aime tous les hommes, sans distinction. Il n'y a personne qui peut dire que Dieu n'aime pas notre tribu. Dieu n'aime pas notre race, non. Dieu aime toutes les races. Alléluia. Dieu aime toutes les races. L'une des preuves, c'est que en Afrique, pour ceux qui pensent qu'ils sont mal aimés, en Afrique, il y a les plus grandes églises. Hein? Il y a des grandes églises. Alléluia. Dieu nous aime. Il se révèle. Il se révèle partout. Il aime tous les continents, tous les hommes. Son amour est large. Alors, individuellement, bien-aimé, quelles que soient les situations, ne pense pas que Dieu t'a exclu de son amour à cause de la situation que tu traverses. Tu n'es pas exclu de l'amour de Dieu. Tu es toujours concerné par son amour. Amen. Amen. Quelles que soient les réalités, l'amour de Dieu est disponible. La longueur, un amour qui ne s'arrête pas, un amour qui dure éternellement. Nous l'avons lu, il nous a pris en charge depuis les seins maternels. Il veut nous porter jusqu'à l'éternité avec lui. Son amour dure. Ce n'est pas un amour qui s'est arrêté. Ce qui arrive parfois, bien sûr, en dehors de Christ, les hommes ne savent pas que Dieu les aime et vivent en dehors. Mais dans le Seigneur, il arrive que des personnes s'excluent eux-mêmes, sortent du processus, quittent la main du Seigneur et s'exposent à beaucoup de souffrances à cause d'une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Une vie qui n'est pas, qui n'obéit pas au principe divin. Alors à ce moment-là, nous mettons nous-mêmes le parapluie. Nous demandons la pluie et nous mettons le parapluie sur notre tête. Quand nous marchons dans les péchés, nous demandons au Seigneur qu'il pleuve, mais nous mettons notre parapluie. Et nous ne savons pas bénéficier de l'amour de Dieu. Et pourtant, la pluie continue, d'autres en bénéficient. Amen. La profondeur de l'amour de Dieu est capable de tirer des plus profondes ténèbres du péché. Est capable d'aller chercher les meurtriers comme Saül. Les gens qui n'avaient aucun respect pour la vie humaine. L'amour de Dieu est capable de vous chercher. Peut-être que vous suivez dans un véhicule. Peut-être que vous êtes à l'hôpital ou dans une maison et qu'il vous est arrivé de verser le sang. Peut-être même que vous êtes ici dans la salle. Vous êtes arrivé de verser le sang, d'empoisonner, de détruire une famille, de détruire quelqu'un. Et quand vous regardez telle famille, vous êtes pleinement conscient que c'est vous qui êtes à la base de la perte et du déséquilibre qui a été causé par la perte de cet homme ou de cette femme. L'amour de Dieu est capable d'aller vous chercher dans les profondeurs du péché. L'amour de Dieu est puissant et profond d'aller chercher les meurtriers et pour les amener au salut de Jésus-Christ. Il n'y a pas un péché que le Seigneur ne peut pardonner. Il n'y a pas un péché. Il suffit simplement de venir à lui avec un cœur repentant. Il n'a pas besoin pour cela de votre argent. Il n'a pas besoin d'une offrande particulière, non. Il a besoin d'un cœur qui s'humilie, un cœur qui se brise à ses pieds et qui reconnaît sa misère. La hauteur, l'amour de Dieu nous a amenés, je disais tout à l'heure, dans les lieux élevés avec Christ. L'amour de Dieu nous a amenés, c'est là où le Seigneur nous a positionnés, en Christ. Étant sur la terre, avec les deux pieds sur la terre, avec la tête dans les cieux, avec le cœur dans les cieux, en Christ. Alléluia. C'est une ressource. Une grande ressource de savoir que Dieu nous aime. Alors arrêtons d'accuser Dieu. Arrêtons d'accuser Dieu. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il nous a prévenus, quels que soient les cataclysmes, toutes les réalités qui se passent dans le monde. Il nous a prévenus. Ce sont des signes annonciateurs, mais ce n'est pas lui l'auteur du mal. Il nous a montré le chemin pour arriver à la vie. Et ce chemin, c'est Jésus. C'est lui. Et là, j'aimerais juste faire le pont avec la grâce. La grâce, c'est le summum de l'amour de Dieu. C'est le summum de l'amour de Dieu. La grâce en Jésus-Christ. Il n'y a pas quelque chose au-dessus. Il n'y a pas un amour manifesté au-dessus de ce sacrifice de son Fils unique. Troisième ressource, la communion du Saint-Esprit. Avoir la communion avec lui, avoir cette communion, l'entretenir, c'est ce que Dieu nous demande. Si nous voulons mener une vie victorieuse, entretenons cette communion. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Mais c'est à nous de faire cet effort, d'entretenir la communion avec le Christ, avec le Saint-Esprit. J'aimerais lire juste un passage de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, ce que le Seigneur a fait en nous donnant son esprit, justement. Or, en Christ, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu en Christ un esprit qui nous pousse à nous conformer aux manières de vivre du monde. Non. Nous n'avons pas reçu un esprit qui nous abrutit, qui nous aveugle, qui nous pousse à marcher dans le désordre. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Amen. Les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Tout ce que Dieu a apprêté, a voulu pour nous, dans son plan merveilleux, nous y entrons avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Ce sont certes des choses de la vie temporelle, des choses qui appartiennent aussi, parce qu'il y a ceux qui appartiennent au bien-être éternel, mais aussi à ceux qui appartiennent au bien-être temporel, mais pour y accéder, c'est dans la communion avec Dieu. Le Saint-Esprit qui nous a été donné nous permet de les connaître et de les expérimenter. Alléluia. La communion avec le Saint-Esprit, comment? Des rappels, la prière, la vie de prière quotidienne. La vie de prière, l'un des piliers de la croissance, la méditation de la parole de Dieu, nous permet d'entretenir la communion. Ce n'est pas possible et ce n'est pas possible de mener une vie de communion avec le Seigneur en mettant de côté la méditation de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Pour entretenir, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut méditer. Autant notre corps a besoin des aliments physiques chaque jour pour se tenir en bonne santé, autant notre âme a besoin d'être nourrie. Chaque jour. Et cela nous aidera à avoir une bonne communion avec le Seigneur. Le Saint-Esprit nous transforme et nous obéissons à la direction. Il y a la parole qui est écrite, mais il y a aussi ce que le Saint-Esprit dépose dans notre esprit et nous permet de maintenir la communion. Le Saint-Esprit nous transforme. Il transforme notre caractère à l'image de Christ. Nous devons chaque fois nous évaluer. Après, bien sûr, chaque année, après un certain nombre de temps, nous devons réaliser quand même que nous avons fait des progrès par rapport à notre caractère. C'est très important. Le Saint-Esprit nous amène à ressembler à Christ. Amen. Le Saint-Esprit, sa fonction, c'est transformer notre caractère. Le colérique devient doux. Quand même dire mon épouse, doux comme un papier mouchoir. La femme amère devient joyeuse. Ça ne dépend pas de ce qu'on a eu. Non, ou qu'un bien matériel, ou c'est vrai, ça procure une joie, mais la joie du Saint-Esprit, c'est en tout temps. Alléluia. En tout temps, en toutes circonstances. Donc je vous renvoie à Galates, chapitre 5, verset 22, pour suivre les fruits, pour lire sur le fruit de l'Esprit et demander au Seigneur que ce caractère puisse se manifester en nous. Je vous renvoie aussi à 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8, qui nous parle de l'amour pour essayer de voir, de nous mirer et de faire notre toilette spirituelle et dit « Seigneur, j'aimerais ce caractère. » De la même manière qu'en venant, les mamans, vous avez un fond de teint, le rouge, le brillant, et ceci, de Tircine. De la même manière, prenez aussi un Corinthien et les papas. De la même manière que vous avez arrangé, cintré tout ça. Hein, de la même manière que vous avez, vous avez fait votre toilette. Prenez aussi 1 Corinthiens chapitre 13, 4 à 8. Là, ça fait la toilette de l'esprit et de l'âme. Et Galates 5, 22. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit nous communique la puissance pour le témoignage. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas inactifs. Voilà des ressources divines pour vivre une vie victorieuse. Victorieuse. Quatrième, nous l'avons vu dans ce passage, le ministère des anges. Le Seigneur a mis à notre disposition des anges, ses anges. Nous l'avons vu plusieurs fois avec le pasteur, lorsqu'il a parlé de voir l'invisible avec le texte de Élisée et les Samaritains. Nous avons vu Élisée entouré de l'armée des anges. Élisée et les Syriens plutôt. Le Seigneur a mis ses anges à nos côtés. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Psaume 34, verset 8 dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. » Un chrétien ne peut pas avoir une obsession des démons. Un bon chrétien, un chrétien malade, oui, il aura une obsession de voir des démons. Un chrétien qui n'a pas encore atteint la maturité, oui, il verra les démons partout. Il aura peur partout. J'allais dire, il verra même des fantômes partout. Et un chrétien qui connaît son Dieu, il sait que le Seigneur est là, l'Esprit est en moi, mais les anges y sont. Alléluia. Il est plus conscient de la présence des anges, que de la présence des démons. Merci. Hébreux chapitre 1, verset 14. Là, l'auteur nous parle des anges. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Le Seigneur savait qu'Élie devait hériter du salut. Il avait une mission à accomplir et sa mission n'était pas finie. Je ne devrais pas écouter cette prière-là qui demandait la mort. J'envoie un ange qui va préparer pour lui les gâteaux. Bien-aimé, tant que ta mission n'est pas accomplie, tu ne mourras pas. Et ce n'est pas le dessein de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu ne meurs avant d'avoir accompli ta mission. Et pour cela, il est prêt à dépêcher des anges. Il est prêt à dépêcher des anges pour empêcher un accident mortel. Il est prêt à dépêcher des anges pour empêcher quelque chose de terrible qui aurait pu se passer. Il est capable, il le fait. Il le fait. Il l'a fait maintes fois, hier, aujourd'hui, il le fait. Il est prêt. Il est prêt à envoyer ses anges pour intervenir dans cette situation où, à tort, tu devrais être condamné. Il est prêt à envoyer ses anges. Ses anges sont au service de tous ceux qui doivent hériter du salut. Dieu les envoie en mission. Il les envoie en mission et ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Ils ne sont pas à notre service, à nous, mais au service de Dieu pour nous. Amen. Ils ne sont pas à notre service, mais ils sont au service de Dieu pour nous. Ce n'est pas à nous de leur donner des ordres. Ange, viens, 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 fais ceci. Non, ça ce sont des élucubrations et de fausses prières. Des fausses prières, des prières anti-bibliques. Nous ne prions que le Seigneur. Alléluia. Et c'est lui qui envoie ses anges. Il peut envoyer ses anges comme lui-même peut aussi intervenir directement. Amen. Les anges sont au service de Dieu en faveur de ceux qui veulent hériter du salut. Alors la dernière ressource que j'intitule, c'est la communion fraternelle et le service dans l'Église. C'est une ressource que Dieu met à notre disposition pour une vie victorieuse. La communion fraternelle et le service dans l'Église. Psaume 133 nous dit, il est doux et agréable que des frères demeurent ensemble. Amen. Que des frères demeurent ensemble. Demeurer, c'est servir. C'est aussi servir pour un même but, servir la cause de l'Évangile. C'est une ressource, une grâce. Ne nous en privons pas. L'Église, telle qu'elle est là, les églises locales, Dieu les a mis à notre disposition pour que nous servons et que nous nous épanouissons dans le service. Et ensuite, nous nous épanouirons dans la connaissance de sa personne. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Le Seigneur envoie la bénédiction là où il y a la communion des frères et des sœurs. Il n'envoie pas la bénédiction dans les bars ou dans les désordres. Là où il y a les frères et les sœurs. Très souvent, c'est plutôt un signe d'immaturité que de s'éloigner, de penser que Dieu va peut-être vous bénir dans un coin là, et puis vous reviendrez. Paf, Dieu m'a béni. Non, Dieu nous bénit là. Au milieu des frères et des sœurs, Dieu te bénit là. Et Dieu te bénit même, comme l'a dit un de nos prédécesseurs ici, Dieu nous bénit même là où il nous a humiliés. Là où il t'a humilié, il t'est béni là. Il veut que les gens qui t'ont vu humilié voient comment le Seigneur te relève. Alléluia. Et ainsi, ce n'est même pas ta bouche qui parlera, mais c'est ta vie et les bénédictions que le Seigneur accomplira. La communion fraternelle est une ressource importante pour une vie victorieuse. Et là, nous voulons refuter cet adage populaire que les gens disent, l'Église c'est le cœur. L'Église ce n'est pas le cœur. L'Église ce n'est pas le cœur. L'Église, Ecclesia, Ek, Kaleo, l'assemblée de ceux qui sont sortis du monde. Amen. C'est ça l'Église, sortis du monde pour une nouvelle vie en Jésus. Ça c'est l'Église universelle. Et l'Église locale, ce sont les sauvés qui se retrouvent dans les mêmes contrées. Bien sûr, dans les églises locales, il y a aussi des gens qui ne sont pas encore sauvés, mais qui viennent, et pour lesquels nous prions, et pour lesquels nous enseignons pour qu'ils soient sauvés. L'Église, ce n'est pas le cœur. C'est une façon populaire ou quinoise, mais ce n'est pas biblique. L'Église, le Seigneur nous met cela comme une ressource où nous pouvons être bénis et nous pouvons aussi bénir les autres. Donc, je termine par là. Je parlais donc des ressources divines pour une vie chrétienne victorieuse, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit, le ministère des anges, mais aussi la communion fraternelle, le service dans l'Église avec les frères et les sœurs. Acclamons la parole du Seigneur. nous nous inclinons pour prier. Et chacun va dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais compter sur toi, compter sur tes ressources. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu me gardes, tu es là. Alléluia. Oh, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Et toi qui n'es pas encore en alliance avec le Seigneur, tu peux dire, Seigneur, j'aimerais venir à toi. J'aimerais entrer en alliance avec toi. J'aimerais que tu sois mon Dieu afin que je puisse jouir de ces ressources, que j'arrête de me battre avec mes propres efforts, mais que je puisse compter sur toi. Alléluia. Parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur. Merci Jésus.
Nous sommes en train de prier.